Radio Kapi. Oh, Kapi. Babel Pongo, Masimango.
Bonjour, nous serons au Nord Kivu avec ce SOS de la société civile de Masisi. La fréquence accrochage entre deux factions de l'AFDC en jeté sur les routes de nombreux habitants de Nyamaboko 1er et 2. Le prix du litre à la pompe est revu à la hausse avec un ajout de 80 francs congolais, hausse que le ministre de l'économie lie à l'augmentation du prix du baril de pétrole. Dans le dossier à suivre dans la seconde partie de ce journal, il sera question des difficultés d'acheminement des produits manufacturés sur l'axe Bukavu au Congolo. Nous commençons donc en Nord Kivu avec ce déplacement massif de la population des groupements Nyamaboko 1er et 2, respectivement vers la localité de Nyabiondo en territoire de Masisi et vers le groupement Walo Wayungu en territoire de Walikale. Pour cause, des affrontements à répétition entre deux factions du groupe armé Alliance des Forces de Défense du Congo, AFDC, dirigé par un certain Luanda Makutano. Selon les autorités locales, c'est depuis plus d'une semaine maintenant que le groupement de Nyamaboko 2, qui accueille ses déplacés, a commencé à se vider à son tour. La société civile du territoire de Masisi demande le déploiement des militaires pour établir l'autorité de l'État. John Banyene, président de la société civile du territoire de Masisi, au téléphone de Marc Marofimbo.
Il y a une semaine qu'il y a eu des affrontements entre les AFDC de M. Luanda et Makutano. Et là, vraiment, c'est une situation que nous déplorons parce que la population s'est déplacée massivement dans le Nyamaboko 2. Et ça fait au moins quelques semaines aussi que la population de Nyamaboko 1er s'est aussi déplacée vers Walo Ayungu, dans le Walikale et les autres vers Nyabiondo. Vraiment, c'est une situation que nous sommes en train de déplorer parce que cette population est sans aucune assistance. Et à part ça, ce sont ces groupes armés qui font la loi là-bas. Raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller nos autorités, que ce soit au niveau national et au niveau provincial, qui puissent nous aider à déployer des militaires et la police là-bas pour que cette population puisse aussi recouvrer leurs droits. Nous demandons donc aux autorités de rétablir l'autorité de l'État dans cette contrée.
À Lubumbashi, plusieurs parcelles du quartier Golf Maïcha, dont la commune annexe, ont été attaquées le week-end par des voleurs à main armée. Les témoignages indiquent que certains habitants des maisons visitées ont été blessés par des armes blanches, d'autres par balles. Les cas de viol sont également signalés, indique le chef du quartier Golf Maïcha. Le bourgmestre de la commune annexe qui gère la périphérie de la ville appelle la population de ce quartier à se prendre en charge. Il était avec Madeleine Waila.
Selon le chef du quartier Golf Maïcha, 5 personnes ont été blessées à coups de machette par le premier groupe de bandits qui ont opéré sur l'avenue dénommée de l'Indépendance. Un peu plus loin, un autre groupe s'est introduit dans une autre parcelle après avoir tiré des balles en l'air. Là, ils ont blessé le propriétaire de la maison et sa femme et ils ont violé les filles. Les cambrioleurs ont apporté une importante somme d'argent après avoir pillé la boutique. Les habitants du quartier Golf Maïcha déplorent les cas d'insécurité dans cette partie de la ville.
On a entendu encore des crépitements de balles dans le quartier. Des policiers qui sont dans ces quartiers-là font la sécurité dans leurs parcelles. Malheureusement, nous pauvres populations, on ne comprend rien.
La plupart des avenues au quartier Maïcha à ce jour sont inondées par les eaux des pluies, ce qui rend difficile ce dernier temps l'accès des patrouilleurs qui assurent nuitamment la sécurité de la ville. Kaose Bin Malsawa, bourgmestre de la commune annexe, pense sécuriser autrement sa population.
Nous avons mobilisé les jeunes volontaires accompagnés par la police pour sécuriser leur quartier.
Il faut signaler ces derniers temps, plusieurs maisons d'habitation au quartier Golf Maïcha sont abandonnées. Les habitants craignent l'insécurité grandissante, indique le chef du quartier. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Kapi.
À Kalemi, il y a eu installation au début de week-end du comité local de protection CLP au quartier Kataki 2 dans la commune du Lac. Mise en place par la section des affaires civiles de la MONUSCO, le CLP vise la réduction de l'insécurité dans cette ville. Le projet bénéficie d'un soutien de l'autorité de la mairie locale qui appelle à l'engagement des acteurs. François-Xavier Mibé.
Nommé comme coordonnateur du comité.
L'installation du comité local de protection au quartier Kataki 2 intervient au cours d'une cérémonie organisée au siège du quartier sous une pluie battante. 15 membres, dont une femme, parmi lesquels le chef d'avenue et d'autres chefs de bloc, composent ce comité. Robert Bahati Bizimungu, un chef des blocs, parle d'une action longtemps attendue.
C'est merveilleux, permettre à nous imprégner davantage dans le travail de la sécurité du quartier.
Le quartier Kataki 2, qui abrite le quartier résidentiel d'Ave, est l'une des entités le plus touchées par des attaques de cambrioleurs dans la zone. Une quarantaine d'attaques au total figurent sur la fiche rouge de la contrée depuis le mois de janvier 2018. Le maire de la ville de Kalemie, Gédéon Kakoudji Kalama.
Je vais commencer même à élargir le conseil de sécurité aux membres qui ont été installés. Mais il y a aussi un travail qui est en train d'être étudié. C'est les livreurs de ménage que l'on doit donner à chaque habitant de la ville, connaître un peu qui fait quoi.
La section des affaires civiles de la MONUSCO compte à présent trois autres comités locaux de protection montés, l'un à la cité de Kalemie, l'autre à Kisebwe et l'autre encore à Tabakongo, et cela en partenariat avec les autorités locales. Kalemie, François Xabembe, Radio Kapi.
Parlons à présent de cette hausse du prix du carburant à la pompe depuis hier à minuit à travers toute l'étendue de la RDC. L'essence est passée de 1810 à 1890 francs congolais et les gazoles de 1800 à 1880 francs congolais. Le ministre de l'économie justifie cette hausse par l'augmentation du prix du baril du pétrole. Mais cette situation inquiète déjà les propriétaires des taxis et taxibus. C'est ce qu'a constaté Radio Kapi ce même dimanche ici à Kinshasa. Je vous propose de suivre ce reportage de Paul Matendo.
J'ai prévu de payer 5 litres. Je me suis d'ailleurs chamaillé avec la vendeuse. Je lui ai dit que tu m'as volé. Puis elle me dira que le prix a augmenté. On ne nous avise même pas. Le prix de l'essence change régulièrement et le prix de la course ne change pas.
Ce changement des prix du carburant à la pompe a eu lieu à minuit, nous a indiqué l'un des gérants d'une station-service de la place. Très surpris, les taximens que nous avons rencontrés ne comprennent pas les mobiles de cette augmentation. Ils en appellent au gouvernement pour stabiliser les prix du carburant.
Et ce sont nos propres autorités qui nous maltraitent. Nous leur demandons de baisser le prix du carburant.
Le ministre de l'économie, lui, parle du réajustement dû à la hausse du prix des barils du pétrole, Joseph Kapika.
Les barils du pétrole est en augmentation, il a dépassé les 50%. Il n'est que normal que nous ne pouvons que accepter de subir les caprices de cette loi-là, de l'offre et de la demande, c'est-à-dire réajuster notre prix. Nous ne les réajustons pas, nous ne saurons plus importer le carburant, il y aura pénurie du carburant et tout va s'arrêter.
Joseph Kapika rassure par ailleurs que cette modification n'affectera pas les prix du transport en commun.
Les membres du gouvernement sortant du Kasaï central réclament 7 mois d'arriéré de salaire et leurs émoluments de 2 mois. Dans une lettre adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont une copie est parvenue à Radio Kapi, ils indiquent qu'après le rappel à Kinshasa de l'ancien gouverneur Alex Kandé à la suite des événements des communes en Sapou, ils n'ont pas touché leur argent. Ils affirment que le mémorandum adressé au nouveau gouverneur du Kasaï central par rapport à leur situation est resté sans suite. Donatien Balekela est l'ancien ministre provincial de l'économie et finances du Kasaï central.
Nous n'avons pas été payés de juin à décembre 2017 et de janvier à février 2018. La constitution et même la loi sur la libre administration des provinces, et même quand vous allez même dans le règlement intérieur de l'Assemblée, vous retrouvez ça. Lorsque le gouvernement tombe, le ministre avec le vice-gouverneur assume les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. C'est ce qui a été fait. Dans le cas qui nous concerne, nous estimons que au 19 février 2018, date de l'investiture du gouverneur Denis Kambayi, c'était la fin de notre mandat. Et c'est de notre droit de réclamer parce que l'acte qui a annulé celui qui nous a nommé le 27 juin 2016, c'est l'acte qu'il a pris le 17 février 2018. D'ailleurs, quand vous lisez le texte, l'arrêté qui nomme le nouveau ministre, l'article 2 dit « Toutes les dispositions antérieures sont abrogées ». Ça signifie quoi? Ça signifie les dispositions qui étaient liées par l'arrêté du gouverneur Kandé qui nous nommait en son temps.
Ne reconnaissant pas de voir aux ministres provinciaux sortant, l'actuel gouverneur du Kasaï central estime que s'il y a des réclamations à faire, ce n'est pas auprès de lui. On écoute Denis Kambay.
Les mémos et nos frères qui nous ont adressé ces documents, je pense que de bonne foi, ils devaient comprendre que depuis le 21 décembre, même avant ça, Le moment qu'il y a eu déjà une motion qui était adressée au numéro 1 et que j'ai succédé ici au Kassai Central, leur mission à la tête de la province du Kassai Central était terminée. Donc s'il y a des réclamations à faire, c'est d'avant le 21 mois de décembre, parce qu'ils continuent à travailler avec, selon les informations à ma possession, avec le vice-gouverneur. Une fois que l'élection a eu lieu, tout tombait de bonne foi, et ils devaient se contenter de ce qu'ils ont fait pendant leur mandat, et se poser la question sur le bilan de chacun devait faire dans son secteur en tant que ministère. Le Kassai Central n'a pas besoin de cette distraction-là. La vérité est qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire jusqu'au départ de mon aîné, Alex Kandé. Ce qui vient après, ce n'est qu'une distraction de mauvais goût.
Un dossier préparé par François Akadima. Au Maniema, 3600 cantonniers incorporés dans 84 entreprises qui travaillent en sous-traitance pour l'Office des routes réclament leur salaire de 8 mois non payé. Selon eux, c'est depuis le mois d'août 2017 que l'Office des routes n'a pas pu les remettre dans leurs droits. Ces cantonniers ont fait un sit-in samedi à l'Office des routes à Kindu et promettent des actions de grande envergure s'ils ne rentraient pas dans leurs droits. André Kimbili, responsable de l'ONG IMKIWCA, membre de la SOCIMA, explique la situation au micro de Mathieu Lungachamboui.
Non-respect des engagements de l'Office des routes, il y a plus de 84 entreprises et plus de 3600 cantonniers. Au moins 8 mois sans que le bénéficiaire puisse retrouver leurs droits. Ce qui inquiète et les entreprises et les cantonniers se trouvant dans l'ensemble de la province du Maniema. Ils sont en train de travailler, ils sont sur le terrain, à Kasongo, voire même à Lubut, et tout ici du Maniema, là où on est en train de travailler dans des situations purement très graves d'insécurité. C'est pourquoi nous demandons à l'Office des routes de veiller immédiatement à ces souffrances de cette population qui est en détresse, que ce message passe directement au niveau national, que les autorités puissent effectivement penser que la vie de la population en dépend pendant cette période où le Maniema se trouve en situation de conflit grave. Et parmi ces gens, il y a aussi des malades. Nous, on s'adresse à l'Office des routes parce que les entreprises ont signé les contrats avec l'Office des routes.
Contacté par Radio Kapi, le responsable de l'Office de route demande aux patrons de ces entreprises et à leurs agents d'être patients, car c'est une situation générale sur l'ensemble du territoire national. Il promet de payer ses arriérés dès que le fonaire aura versé l'argent. L'artiste musicien Lutumba Sima Romasia vient de décider de quitter la scène musicale ce lundi 19 mars 2018 à l'occasion de ses 80 ans, dont 60 dans la carrière musicale. Ce poète, chroniqueur social et historien entend déposer officiellement sa guitare au Musée national. Jean-Désiré Kanyama revient ici sur le parcours de sa vie musicale.
Sangifumba. Il est toujours difficile d'être aimé.
Le poète Simaro est né Simon Lutumba Ndomanueno Masia le 19 mars 1938 à Leopoldville, actuel Kinshasa. Le patron du groupe musical Bana Oké, il débute sa carrière musicale en 1958 avec l'orchestre Mikra Jazz. Il rencontre Franco en 1961 quand sa popularité arrive aux oreilles du patron de l'Oké Jazz. Lutumba y apporte sa touche et ses talents d'auteur, compositeur, guitariste reconnu par ses pairs vers les années 69-70. Sa popularité réelle s'annonce en 1974 avec la composition de Mabélé, une rumba interprétée par Samangwana qui lui valut le surnom de Simaro le poète ou Simaro Masia. Ses textes poétiques sur les réalités socio-économiques et politiques des Africains lui confèrent le statut de chroniqueur social et d'historien.
Oh Maya, Yokandenge Kinshasa na Braza Bazali Kozomelangai.
Actualité Afrique Monde.
En Sierra Leone, plusieurs incidents ont éclaté la semaine dernière entre des partisans de deux finalistes du second tour de la présidentielle. Samora Camara, sorti en tête du premier tour, et Julius Maada Bio, qui s'affronteront le 27 mars prochain. Mais en attendant le scrutin, la perspective de nouvelles violences inquiète dans un pays profondément marqué par des années de guerre civile. Violences entre partisans rivaux, maisons incendiées. Ces incidents ont été signalés dans plusieurs villes du pays, à Port-Loko, dans le nord, à Kono et Kailaoun, dans l'Est ou encore à Bo dans le Sud. Vladimir Poutine, triomphalement réélu dimanche pour un quatrième mandat à la tête de la Russie, a remercié des centaines de partisans réunis dans le centre de Moscou pour sa victoire, dans laquelle il voit un signe de la confiance et de l'espoir des Russes. Je vois la confiance et l'espoir de notre peuple. Nous allons travailler tout aussi dur, d'une manière tout autant responsable et efficace, a-t-il déclaré hier devant ses partisans réunis à deux pas du Kremlin. J'y vois la reconnaissance du fait que beaucoup de choses ont été faites avec des conditions, dans des conditions très difficiles. Avec un score largement au-delà des prévisions selon les sondages sortis des urnes, l'homme fort de la Russie depuis plus de 18 ans est donc conforté comme l'incontournable président d'un pays qu'il a replacé ces dernières années au premier rang sur la scène internationale, au prix d'un climat de nouvelle guerre froide encore accentué depuis l'empoisonnement de l'ex-espion russe au Royaume-Uni.